retour évidemment ce soir sur les élections législatives avec pour le département des Deux-Sèvres 3 duels, majorité présidentielle NUP au deuxième tour dimanche prochain. L'EHPAD, les Magnolia de Montcoutant, victime d'une panne électrique de grande ampleur à tel point que les résidents ont été transférés vers d'autres établissements. Après les grêles en Toircet et en Argentonnay, les carrossiers sont en surchauffe pour des semaines. Énorme succès populaire pour les Highland Games ce week-end au château de Bressuire. Après 3 ans d'attente, les jeux de force écossais sont revenus en force. Retour aussi ce soir sur le week-end sportif avec les finales des coupes départementales de basket à Cerizay et la finale de la Coupe Saboureau en football à Saint-Porcher, remportée par Beaulieu-Breuil face à Montravers. 3 duels majorité présidentielle NUP seront proposés aux électeurs de Sévrien dimanche prochain sur la 3e circonscription. Jean-Marie Fievé, le député sortant, réalise 34,27% des voix alors que Juliette Voilaise, elle, fait un score de 22,36. C'est le RN qui arrive 3e avec 19,51% devant le candidat des Républicains Philippe Robin, 4e avec 15,55%. Écoutez à propos de ce dernier, le sénateur LR Philippe Mouillet.
C'est une déception parce que on espérait, on regarde la qualité de la campagne électorale qu'il avait menée, que le score soit meilleur. Mais je crois qu'on est touché par le phénomène national avec globalement deux forces qu'on retrouve, celle de la majorité présidentielle et puis l'initiative lancée par Mélenchon avec NUPS qui a fonctionné, y compris dans le nord du département. Voilà, donc ça c'est le premier constat. Mais moi je suis aussi marqué par le fort taux d'abstention. Je crois que c'est aussi un signe, c'est pas que dans le nord, c'est aussi un sujet national. Mais clairement, il faut quand même beaucoup se poser des questions sur l'avenir et sur le fonctionnement de la démocratie.
Toujours est-il que le deuxième tour opposera également sur les premières et deuxièmes circonscriptions des candidats de la NUP et de la majorité présidentielle. Sur la première circonscription, Bastien Marchive et François Charron, 30,2% pour le premier nommé, 28,43% pour le second. Guillaume Chiche est donc écarté dès le premier tour sur cette circonscription qu'il détenait depuis 2017. Le deuxième tour s'annonce indécis, mais Bastien Marchive entend mobiliser cette semaine autour de sa candidature soutenue par la majorité présidentielle.
On aura besoin que tout le monde se mobilise, j'en appelle au sursaut démocratique et à ce que chacun se déplace dimanche prochain pour faire barrage à l'extrême gauche. Il s'agit de se réveiller le 20 au matin avec le sentiment du devoir accompli et non pas le goût amer d'un député La France Insoumise qui représenterait notre territoire à l'Assemblée, et avec ce vrai risque d'avoir un blocage de nos institutions dans un contexte international instable. On va continuer le porte-à-porte, la réunion publique, la présence sur les marchés, d'aller à la rencontre des gens.
Guillaume Chiche, qui arrive 3e avec un peu plus de 17%, a indiqué qu'il voterait François Charron dimanche prochain.
Écoutez, c'est pas une surprise, on s'y attendait. Je rappelle que Guillaume Chiche est adhérent aux Nouveaux Démocrates qui eux-mêmes font partie de la NUP. Certes, il avait entretenu des ambiguïtés, mais bon, il est assez inconstant dans son engagement politique, puisque venir de la majorité présidentielle et soutenir Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un sacré grand écart qui risque de froisser, et je pense que ça froissera ses électeurs.
La détermination du candidat de la majorité présidentielle, Bastien Marchi, félicité dès hier soir par le maire de New York, Jérôme Baloge. Sur la 2e circonscription, Cécilia Rochefort défie Delphine Bateau, qui est arrivée avec 11 points d'avance, une avance confortable pour la députée sortante en ballotage favorable, avec ses 36%, mais l'élection n'est pas encore gagnée selon Delphine Bateau.
Non, pas du tout. Une élection se gagne au deuxième tour, et effectivement, je suis arrivée largement en tête du premier tour, mais rien n'est fait, et il faut que les citoyennes et les citoyens viennent voter, plus nombreux je l'espère, parce que l'abstention a été très forte, dimanche prochain.
Alors, une forte abstention et un rassemblement national qui fait quand même un gros score, hein.
Oui, qui fait un score important qu'on avait déjà vu lors de l'élection présidentielle. La problématique de la progression de l'extrême droite dans notre pays et dans un territoire rural comme le nôtre, elle en dit long en fait sur aussi l'échec du gouvernement actuel, l'échec de la politique d'Emmanuel Macron, notamment en direction des territoires ruraux. Mais il n'y a pas que ce vote-là, il y a aussi une abstention massive que moi je considère aussi comme une forme de message politique.
Des duels majorité présidentielle NUP donc au deuxième tour. Sur la 3e circonscription, Jean-Marie Fievé largement en tête hier et challengé par Juliette Voilaise pour la NUP. NUP. Un débat vous sera proposé demain soir à 18h30 sur Colline, animé par Jacqueline Pinon, avec Fabien Gouault du Courrier de l'Ouest et Dominique Guinfolo de la NR. L'EHPAD, les Magnolias de Maucoutan, victimes d'une panne électrique de grande ampleur ce week-end, résultat d'un début d'incendie au sein du local technique survenu samedi soir, sans doute en raison d'un court-circuit. Si le sinistre a été rapidement maîtrisé par les pompiers, le feu dans cette armoire électrique a eu pour conséquence une énorme panne générale qu'un groupe électrogène ne pouvait pas solutionner dans l'ensemble de l'établissement ni alimenter les sécurités incendie. Cette panne n'a pas eu d'incidence grave sur la santé des 88 résidents, mais le transfert d'une grande partie d'entre eux vers d'autres EHPAD s'est avéré nécessaire. Roland Moreau, le maire de Maucoutan-sur-Sèvre, interrogé par Patrice Bémanangy.
Le SDIS, avec la préfecture, qui a mis en place un PC, on joint les EHPAD du département, même hors département, pour essayer de trouver des places pour reloger les résidents le matin, quoi, à partir du dimanche matin. La préfecture et l'ARS, du coup, ont vraiment bien œuvré, hein, parce qu'ils ont eu, dans la nuit, en fait, et dans la matinée, ont réussi à trouver des places. En milieu d'après-midi, tous les résidents étaient évacués. Enfin, quand je dis tous, pas les résidents qui sont dans l'UT Alzheimer, qui, eux, sont restés sur place, les 13 résidents, parce que c'était compliqué de les reloger du fait de leur handicap, enfin de leur pathologie. Donc eux sont sur place et là les pompiers ont mis en place un groupe électrogène pour pouvoir alimenter ce secteur-là, uniquement ce secteur-là. Alors sur la lumière, hein, uniquement, hein, c'est du provisoire.
Reste à revoir et à consolider toute l'alimentation électrique de l'EHPAD Montcoutantais pour un retour espéré des résidents avant la fin de la semaine. Après les chutes de grêle en Thouarsais et en Argentonnais le week-end dernier, les carrossiers sont en surchauffe pour des semaines. D'un côté, des plaies et des bosses sur les carrosseries et une vraie galère pour les propriétaires de voitures. De l'autre côté, un tsunami chez les carrossiers qui amasse des devis et du travail en atelier pour des semaines. Exemple parmi d'autres chez Freddy Lemaire, au micro-colline de Dominique Hérault.
Moi j'en ai 150, puis c'est pas fini, hein. Tous les matins, j'ai une dizaine, une vingtaine de vides sinistres qui tombent sur l'ordinateur. Il y a des gens qui attendent parce qu'ils savent pas avec leur franchise s'ils vont faire réparer ou pas. C'est que quand on pose le matériel sur le toit, on trouve plus d'impact que eux quand ils le regardent dans la cour. J'ai un copain, sa voiture elle vaut pas cher, donc lui il préfère recevoir de l'argent de l'assurance et puis pas réparer.
Pour réparer les carrosseries, les assureurs font appel à des spécialistes, des débosseleurs dont l'art délicat consiste à tapoter les bosses pour relisser les capots et les pavillons en douceur. C'est moins coûteux pour les assurances. Après les orages, comme des saisonniers, ces pros apparaissent dans les garages. Freddy Lemaire.
Oui, on travaille avec ces débosseleurs. Ils enlèvent toute la grêle et après les trous grognons, ils les débourrent. Ça veut dire qu'ils les ramènent au maximum et après, quand ils forcent de trous, bah, clac, ça fait péter la peinture. Il y a une fissure, donc quand il y a une fissure, bah, ça veut dire que la peinture est pétée. Et après, bah, nous, on intervient derrière pour poncer et repeindre. Les capots, les pavillons de voiture, quand ils sont vraiment impactés, eux, il y a des endroits qui peuvent pas intervenir. Bon, bah, nous, on intervient. Par contre, on repeint derrière.
Difficile d'estimer le volume d'affaires que peut générer cette manne venue du ciel comme en 2014, mais il est clair qu'elle vient inonder des ateliers dont certains étaient déjà chargés mais qui sont rapidement passés en surchauffe pour plusieurs semaines. Reportage de Dominique Hérault. Le département des Deux-Sèvres va procéder à des travaux sur le contournement sud de Niort. Ces interventions nécessitent de fermer la route à la circulation pour permettre l'entretien de la chaussée et des dépendances afin de limiter la gêne. Sur cet axe très fréquenté, les travaux seront réalisés entre 19h et 23h30 en plusieurs phases. La première est prévue dans la nuit du 15 au 16 juin. Entre la route de La Rochelle et la route de Saint-Jean-d'Angély, la circulation sera déviée par le contournement nord de Niort. Énorme succès populaire pour les Highland Games, un très grand succès pour ce retour au château de Bressuire après 3 ans d'absence. Sur le plan sportif, les 2 meilleurs internationaux se sont départagés lors de la dernière épreuve du retournement de Tronc d'Arbre et le duel a tourné à l'avantage du Tchèque Tulacek, Vadislas Kulacek, qui devance Darien Glenn Nisch. Le public a répondu plus que présent avec au moins 12 000 personnes sur les 2 jours. La 11e édition restera comme un grand cru pour Jean-Louis Copé, fondateur de cet événement unique.
L'année que l'on vit là, l'édition qu'on vit là, fera partie des grandes dates après 3 ans d'interruption. Peut-être que ceci explique en partie la réussite de l'édition 2022.
Ah, il y avait une grande attente, hein, évidemment, du public qui répond bien présent. La météo est là. On a eu une petite incertitude là tout à l'heure, mais Tout est réuni. Hein.
Oui, donc c'est cette attente, cette incertitude, elle est motivante. On parle du public, mais également pour les athlètes, pour les groupes. On sait les difficultés qu'ont certains paillebandes à se reconstituer avec des gens qui ont pratiquement cessé de répéter en groupe pendant 2 ans. Donc, manifestement, c'est reparti.
La nouveauté sportive en 2022, c'est d'avoir invité les femmes et la Suissesse Stéphanie Frey s'est montrée intraitable et ravie de son week-end bressurier. Ravie aussi, Fabien Patenel était l'un des deux seuls Français en compétition avec les internationaux, pesant moins de 90 kilos. Et forcément un handicap insurmontable face à des colosses pesant 30 à 40 kilos de plus et mesurant 20 cm de plus.
C'est le plus gros plateau que j'ai jamais fait, même en championnat du monde amateur. Là, c'est encore un plateau monstrueux.
Alors, est-ce qu'on arrive quand même à rivaliser un petit peu sur certaines épreuves au moins ?
Il y a certaines épreuves où j'arrive à mon marteau, ce qui est mon épreuve fétiche, on va dire.
Un lanceur de marteau au Highland Games, on avait aussi un lanceur de poids. Ni plus ni moins que le recordman de France, Frédéric Dagé, une passerelle intéressante entre l'athlée et les jeux de force écossais, permise par Jacques Accambray, parrain de ces Highland Games.
Le lancer du marteau vient justement des forgerons qui lançaient leur marteau démaillé avec des manches en bois. Et c'est seulement après qu'on a mis une chaîne, puis ensuite un câble. Lancer du poids, c'était la stone également, c'était les grosses pierres. C'est vraiment l'origine des lancers.
C'est un plaisir d'être parrain, forcément, sur ce type de manifestation-là.
Bah écoutez, moi, je suis stupéfait vraiment de voir le nombre de spectateurs, parce qu'il y en a plus que dans un meeting d'athlétisme traditionnel, avec ensuite les marching bands, parce que j'adore la musique des pipe bands, des cornemuses. C'est ce que je me mettais toujours à écouter ça avant de faire mes compétitions, parce que ça me mettait les chills, la chair de poule, et ça me préparait. Mais là, c'est formidable, c'est un très beau, à la fois une belle compétition, très beau spectacle, et le public s'amuse beaucoup. Donc ça, c'est vraiment du sport fun.
Retour des Highland Games dans 2 ans. Maintenant, après le rangement, viendra l'heure du repos pour les bénévoles au t-shirt vert, très actifs sur le château de Bressuire depuis plusieurs jours. En basket, le BCDC accueillait ce week-end les finales des coupes départementales. 11 matchs se sont déroulés à la salle Paul Rabouan, des U15 aux seniors, chez les filles et les garçons, chez les seniors hommes. La finale a opposé Thouars au réveil bressuirais. C'est Thouars qui s'est imposé au terme d'un match très intense et plaisant à voir. Score final 97 à 86. Raphaël Battiau, l'un des joueurs de Thouars.
Gros match, très très intéressant, franchement une équipe jeune en face, donc nous aussi on est une équipe plutôt jeune, donc ça courait, il y avait du rythme, c'était vraiment très intéressant, des joueurs à droit à 3 points, c'est vraiment un match qu'on a apprécié en tant que joueur, on a aimé jouer, vraiment super, super finale. Pour moi la différence elle s'est faite sur l'intensité dans le secteur intérieur notamment.
Un match forcément plaisant du côté des vainqueurs, du côté des battus, il y avait de la déception pour la coach Clémence Baudry.
Un peu frustré, parce que les gars ils avaient vraiment envie de la gagner. De toute façon une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Donc voilà, mais je suis fière des gars, je suis contente. Ils ont montré, ils ont vraiment fait un bon match, ils ont montré un beau visage et franchement, non, c'était vraiment un beau match à voir, je pense.
Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui là, pour remporter là?
Peut-être un peu de jeu d'équipe. Moi, c'est des gars qui n'ont pas joué ensemble toute l'année. Donc, et puis, Thouars, c'était une très belle équipe avec de bons joueurs. Donc voilà, la marche était un peu trop haute.
Voilà, propos recueillis par Nathan Berthaud. En football, Beaulieu-Breuil a remporté la Coupe Saboureau hier face à Montravers sur le terrain de Saint-Porcher. L'entente a gagné 3-1. Il y avait 0-0 à la pause. Tout s'est joué en deuxième mi-temps. Pour le gardien et capitaine de Montravers, Charlie Pouplein, son équipe a sans doute payer son inexpérience.
J'avais dit que de toute façon, il fallait avoir aucune pression, c'est des bons matchs à jouer, il y a du public autour, je sais pas, combien de personnes, peut-être 1500. Ouais. Après un mi-temps, on était dominé. Après deuxième mi-temps, moi j'ai dit à mes joueurs, il y a 0-0, on prend pas de but en première mi-temps, et ce qui était, je pense, un miracle, ils ont touché le poteau sur une tête. Ouais. Je leur ai dit, écoutez, relevez la tête, on rentre en deuxième mi-temps, il y a 0-0, on donne tout ce qu'on a maintenant. Ouais. Et j'ai dit, si on marque dans les 10 premières minutes à mes joueurs, ouais, j'ai dit, ça, il y a moyen de gagner. On a marqué au 49e, il me semble, et j'y ai cru. Après, bon, bah, l'effet de match ont fait que nous nous sommes écroulés, je pense, en milieu de deuxième mi-temps. Et je pense qu'on n'a pas eu d'expérience au niveau d'une finale. Tout le monde avait peut-être un peu la trouille, avec autant de personnes autour, une bonne ambiance. C'est une bonne fête.
Malgré la défaite, Montravers a donc participé à la fête. La fête, elle est totale pour Beaulieu-Breuil et notamment pour Jérémy Tuilier, buteur hier après-midi au micro d'Enzo Marot.
C'était une belle fête. Forcément, nous, toute l'équipe a été hyper motivée pour gagner, notamment avec tous les supporters qu'on avait. Du coup, c'était une super fête et que je marque en plus à la fin, c'était super parce que j'avais joué ici avant, donc c'était top. On est une famille et là, comme pour moi, c'est la finale, c'est pas ça Saint-Porcher, c'est là où je joue avant depuis que je suis tout petit. Donc ça pouvait être une belle fête et il fallait absolument qu'on gagne et on a gagné, donc tant mieux.
Les joueurs de Beaulieu-Breuil tenaient aussi à remporter ce match pour le président Nicolas Joly, qui vivait son dernier match puisqu'il passe la main. Beaucoup d'émotions pour lui également.
Finir sur une victoire comme ça et de voir tout l'engouement qu'il y a eu autour de l'équipe, tout le club vraiment s'est déplacé en masse, donc c'est très réussi. Les associations ont besoin de bénévoles, donc faut pas lâcher le morceau. Le club a encore besoin de beaucoup de monde. Là on voit que le bon côté avec une finale, avec beaucoup de monde, mais voilà, faut penser aussi à tous les gens qui nous aident tout au long de l'année pour encadrer, pour organiser, pour tracer les terrains. Enfin voilà, la coupe aussi, je pense que ça récompense tout le travail qui est fait tout au long de l'année. Donc c'est génial.
Beaulieu-Breuil remporte donc la coupe Saburo au détriment de Montravers 3-1. Le week-end prochain, ce sera la finale de la Coupe des Deux-Sèvres entre Chiché et l'Avenir 79. Et c'est Courlay qui accueillera le match dimanche à 16h.